Philippe-Michel Labrosse, bonjour.
Bonjour Quentin.
La pire réponse qu'un assureur puisse faire à un client qu'il a au téléphone, c'est quoi? La réponse vraiment impardonnable, quoi.
Ah bah c'est quand ce client se trouve en difficulté, parce qu'il subit un sinistre, quelque chose d'imprévu, lui dire bah, « je suis désolé, c'était pas dans votre contrat ».
Horrible, horrible.
C'est horrible, et c'est vraiment ce qu'il faut éviter.
Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec aujourd'hui en face de moi Philippe-Michel Labrosse, DG depuis presque 2 ans de Abeille Assurance sur votre, ouais bien, sur votre veste, une petite abeille justement. En quoi cet insecte hyménoptère, un insecte hyménoptère, ouais, peut être associé à une entreprise d'assurance, sachant que c'est un nom très récent, hein, Abeille Assurance?
Eh ben non, c'est pas un nom si récent que ça.
C'est pas un nom si récent
c'est
que
un,
ça.
C'est un nom qu'on a fait revivre aujourd'hui, mais c'est une compagnie qui a été créée en 1856, qui s'appelait à l'origine l'Abeille Bourguignonne, donc parce qu'elle est née à Dijon, et sa mission première, c'était d'assurer les viticulteurs, les propriétaires de vignes, contre la grêle.
Donc elle a ressuscité récemment, on peut dire.
Exactement.
Et elle n'est plus que bourguignonne, elle est beaucoup
alors,
plus
le temps s'est passé depuis 1856. Elle a longtemps été Abeille Assurance, donc jusque dans les années 90. Elle était purement française et puis elle a été cédée à des Anglais, donc dans les années 90, qui s'appelaient Aviva, d'abord Commercial Union, puis Aviva. Et nous avons décidé, lorsque Aviva a souhaité céder sa filiale française, de nous porter acquéreur de Aviva France, que nous avons rebaptisé avec son nom d'origine, Abeille Assurance.
Et donc cette abeille, alors, qu'est-ce que c'est un symbole quelconque dans ce métier? Quelque chose qui relie l'abeille au monde de l'assurance ou pas
alors,
du tout?
Alors on peut lui trouver plein de symboles. La première, c'est qu'elle est forcément proche de la nature. L'abeille, c'est elle aussi qui pollinise. On peut dire aussi que l'abeille est travailleuse, qu'elle vit en ruche et que finalement c'est très cohérent avec l'image d'assureur qui protège et qui protège parce qu'il y a une mutualité d'assurer.
C'est un insecte assez sain, finalement.
C'est ce qui nous semble, en tout cas.
Vous connaissez bien donc ce secteur, vous, parce que vous avez travaillé chez Allianz ou à la Massif. Donc la spécificité d'Abeille Assurance, c'est quoi au milieu de tous ces concurrents? Il y a beaucoup, beaucoup d'assureurs aujourd'hui.
Alors Abeille Assurance, c'est d'abord un ensemble très complet, puisque nous sommes à la fois assureur de personnes, assureur de vie, d'épargne. Nous sommes l'assureur de l'affaire, la grande association d'épargnants, 755 000 épargnants. Mais nous sommes aussi assureur de santé, nous sommes aussi assureur dommages. Donc nous assurons à la fois des particuliers et des entreprises. Et surtout, nous allons à la rencontre de tous ces clients au travers de différents canaux de distribution. À la fois nos 946 agents généraux, qui sont des assureurs de plein exercice dans les territoires, mais également nos conseillers financiers au sein de l'Union financière de France, qui est notre filiale spécialisée sur les produits patrimoniaux, l'assurance vie. Et nous avons d'autres entités également. Nous sommes présents en direct avec Eurofil sur la partie assurance dommage de particuliers ou encore avec Épargne Actuelle sur des aspects patrimoniaux également.
Donc Abeille Assurance peut assurer absolument tout.
Si vous présentez en me demandant d'assurer une fusée, je vais peut-être pas l'accepter parce que c'est un risque que je connais pas bien.
Ouais,
mais en revanche, nous assurons évidemment tout le domaine du particulier, donc en multirisque, donc habitation, automobile, les contrats de garantie d'accident de la vie, la santé, la prévoyance, etc. Les professionnels et les entreprises. Et dans les entreprises, notamment, nous sommes un grand assureur agricole. Nous avons à peu près 10% du marché agricole. D'ailleurs, c'est relié avec cette abeille bourguignonne. Hein. On a une fibre, en fait, d'origine vers le monde agricole. Donc, on est assureur de récolte, assureur de biens, de responsabilité pour les...
Et la part du business entre donc professionnels et personnel, client?
Alors, sur la partie de l'assurance dommage, qui représente à peu près 25% de notre 25-30% de notre chiffre d'affaires, c'est assez bien réparti. 50% ce sont des particuliers et le reste des entreprises. Mais en fait, ce sont souvent des particuliers issus des entreprises, parce que si je prends un exemple, ce sont les professionnels, les travailleurs non salariés. Nous assurons leur activité professionnelle et bien évidemment, nous les équipons également dans le domaine particulier.
Est-ce que le télétravail, ça a impacter d'une certaine mesure le business de l'assurance? Est-ce que le fait qu'aujourd'hui il y ait de plus en plus de télétravailleurs, ça vous a, vous, ouvert une brèche de marché et a généré une demande finalement?
Alors, je ne sais pas répondre de manière précise à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, le télétravail a bougé les lignes de manière assez forte. D'abord, c'était une bonne surprise parce que tout ça, ça fonctionne et qu'on puisse passer quand même l'épisode assez incroyable qu'on a vécu lors du premier confinement. Et puis après, on a développé le télétravail avec de nouveaux défis qui sont plus des défis d'ordre managérial, c'est-à-dire de comment conserver la cohésion des équipes, la qualité, les interactions qui font la richesse des entreprises. Moi, je dis souvent, une entreprise, c'est d'abord et avant tout une communauté humaine. Mmh. Et c'est vrai que le grand défi, quand on est à distance, c'est de garder toutes ces interactions. Et donc voilà, donc aujourd'hui, on y est bien installé. Je pense qu'on le vit de manière très, très positive. Mais on n'est pas encore devenu des entreprises à distance. Donc il faut en permanence continuer à progresser pour que ce télétravail soit très positif. À la fois pour les collaborateurs et collaboratrices, mais aussi pour les clients.
Ben c'est ça, parce que pour la partie interne, j'ai bien compris, mais en matière de business, est-ce que le télétravail a généré de l'assurance, si je puis dire? Est-ce qu'on assure de la même manière qu'un télétravailleur qu'un travailleur qui est au bureau?
Ah oui, parce oui, que... ça c'est... Alors, on a étendu des garanties, en fait, hein, c'est-à-dire que, notamment des garanties, en fait, dans le domaine particulier, pour couvrir, en fait, sur l'activité de travail à domicile.
Voilà, bien sûr, oui.
Donc, c'est... voilà, quand je renverse quelque chose sur mon laptop, et effectivement, c'est un accident dans le cadre du travail, mais qui est couvert donc, dans l'habitation. Voilà, on a évidemment étendu tout cet aspect-là. Mais est-ce que ça a vraiment fait croître notre marché de l'assurance ou les besoins à couvrir? J'en suis pas totalement certain.
Ça n'a pas changé le monde. D'un secteur qui évolue comment avec le temps, vous qui le connaissez bien, qu'est-ce que vous avez vu ces dernières années comme grande mutation, comme grand changement? Alors, en matière de relations clients peut-être, ou en matière de...
Le secteur en lui-même est confronté aujourd'hui schématiquement, si on divise l'assurance dommage, celle de biens et de responsabilités, et l'assurance de personnes, donc la vie et globalement la santé-prévoyance, c'est vrai que là, on vit un changement de contexte qui est assez fort. Je le résume en deux points principaux sur l'assurance dommage. C'est le retour de l'inflation. Donc, ça veut dire qu'on a de l'inflation dans ce qu'on appelle nos coûts moyens, notre charge sinistre. Vous voyez, un pare-brise, par exemple, aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'on a des pare-brises avec les fonctionnalités de conduite assistée. Et puis, toute la matière, en fait, aujourd'hui, coûte beaucoup plus cher. Donc, cette inflation est un défi. Et puis, on a aussi le choc climatique qui est extrêmement fort, qu'on a vécu très fortement l'an dernier avec et surtout avec une transformation climatique qui n'est pas une tendance mais qui est vraiment qui est un bouleversement et qui surtout est un bouleversement, c'est-à-dire que les combinaisons d'événements, les localisations ne sont plus les mêmes en fait, et donc c'est pour nous un vrai défi.
Comment vous le traitez justement ce sujet? Alors on pourrait y passer des heures, mais rapidement, ce sujet du climat, quoi, de ce point de non-retour finalement.
Alors d'abord, de plusieurs manières. D'abord, on est extrêmement sensibilisé en fait à cette transformation climatique. Donc déjà en tant que assureur, mais aussi investisseur, parce qu'on investit l'épargne qui nous est confiée, les provisions qu'on constitue. On est très attentif en fait à accompagner et même à accompagner l'accélération de la transformation climatique de notre économie. Le deuxième aspect, c'est évidemment la prévention, qui est fondamentale, c'est-à-dire qu'on incite de plus en plus nos clients à mettre en place des mesures de prévention. Je pense notamment à nos clients dans le domaine agricole, par exemple.
Voilà. Par exemple.
Qui sont fortement concernés. Mais c'est un vrai défi, et c'est un défi pour l'ensemble des assureurs, et c'est un défi aussi pour la société française, parce que aujourd'hui, certains domaines relèvent de la responsabilité de l'ensemble de la collectivité. Quand on délivre des permis de construire dans des zones dont on sait qu'elles sont inondables ou qu'elles peuvent être victimes de submersion marine, en fait, c'est tout à fait regrettable. Donc, il faut à un moment donné que cette responsabilité soit partagée par les différents acteurs.
Est-ce que vous diriez qu'il y a beaucoup plus de choses aujourd'hui à assurer qu'il y a 30 ou 40 ans, par exemple ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'assurance, ça regroupe tout un tas de plus d'offres, plus de choses à assurer dans les foyers ou dans les entreprises, d'ailleurs ?
Je le pense, je n'ai pas vraiment de statistiques, je le pense parce qu'il y a des nouveaux besoins, puis il y a, des nouveaux risques qui apparaissent. Le métier d'assureur, c'est de couvrir des personnes, des entreprises contre des aléas, face à des aléas, à des risques.
Je pense à la cybersécurité, des choses comme ça.
Ça c'est un bon exemple. Vous avez aussi des nouvelles installations qui peuvent exister, comme les panneaux solaires, par exemple. Comment on gère en fait l'assurabilité de ce type de...
Parce que vous me donniez tout à l'heure l'exemple, je reviens au début de l'interview, l'exemple de la fusée, vous dites ça, je ne suis pas sûr de l'assurer. Donc il y a une assurabilité, vous dites, de certains...
Alors, vous savez, le métier de l'assureur, en fait, il n'y a pas des choses que vous pouvez assurer ou pas assurer. Mmh. En fait, c'est soit vous connaissez les risques parce que vous avez une expérience, ouais, et que vous avez donc une expérience statistique des risques et que vous avez ensuite une capacité à les mutualiser. Mmh. Basiquement, c'est ça la règle de l'assurance. Il faut que j'ai une mutualisation importante de mon risque, donc je répartis le risque de survenance en fait, d'une occurrence sur une mutualité suffisamment importante, et je connais statistiquement ce risque. Donc il y a des risques que je ne connais pas, voilà, donc si vous vous présentez avec quelque chose que je ne connais pas, je ne pourrai pas l'assurer, parce que je suis incapable de vous donner un tarif, et il n'aurait pas de sens, puisque je n'ai pas de capacité à le mutualiser. En revanche, les autres risques, on les connaît bien, et c'est là où le choc climatique est un défi, c'est qu'il touche au cœur même d'un des éléments de notre métier, qui est la connaissance historique et statistique, alors que c'est plus pareil.
Philippe-Michel Labrosse, il nous reste une petite minute, une micro-minute, dernière question. Il y a un cliché qui colle au monde de l'assurance et des assurés, c'est que les Français sont excessivement exigeants. Est-ce que vous me le confirmez ?
Oui, mais ils ont raison de l'être. Je pense que les Français ont raison d'être exigeants. Il faut aussi qu'ils entendent le message que les conseillers, agents généraux, courtiers peuvent leur donner. C'est que l'assurance, ça se pense aussi quand tout va bien. Ouais. Et peut-être que nous aussi, on communique pas très bien, parce que je pense que sans assurance, il n'y a pas de progrès. Je veux dire que s'il n'y avait pas d'assurance, on ne pourrait pas transporter des biens, des personnes, construire des buildings et développer des entreprises.
Philippe-Michel Labrosse, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Dessineur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Merci à vous.